Le dernier exposé par Anne Maître, Le fond slave des Jésuites, un laboratoire pour la mémoire des émigrés russes. Un exposé que nous attendons particulièrement.
Merci. Merci. Donc, tout d'abord, je profite de ma prise de parole pour, au nom de la bibliothèque, remercier Hugues Fulchiron et surtout Svetlana Garziano d'avoir associé la bibliothèque d'Hydro de Lyon et ses fonds slaves à l'organisation de cette belle manifestation scientifique inscrite donc dans le projet mémoire porté par l'Université de Lyon, dont l'axe scientifique exploré par ce colloque, donc regard croisé sur la mémoire de la Révolution russe en exil, qui a largement été déjà bien exposé jusqu'à maintenant, interroge donc la mémoire des révolutions russes à travers les regards des émigrés russes tout au long du XXe siècle. C'est donc une émigration massive et multiple qui a porté hors de sa terre natale une population très diverse, philosophes, scientifiques, juristes, hommes de lettres, artistes, mais aussi hommes politiques, militaires, gens du peuple. Cette communauté a produit une littérature abondante, dont il vient d'être aussi fortement question dans l'exposé de Gervais Stassis. Et donc notre propos, à travers l'exposition qui est venue soutenir cette manifestation scientifique, a été de mettre en valeur toute cette documentation. Et cette étude, cette problématique de mettre en valeur donc ces formes écrites et particulièrement imprimées que peuvent prendre les manifestations de la mémoire des révolutions de la part de la communauté des émigrés russes, trouve un large écho dans nos collections consacrées au monde russe et slave. En effet, le socle majeur en est une bibliothèque jésuite dont l'existence est directement liée aux événements qui ont bouleversé le cours de l'histoire russe et celle du monde au début du XXe siècle. Cette bibliothèque jésuite, dont je vais évoquer rapidement l'histoire, porte aujourd'hui le nom de Fonds slaves des Jésuites et constitue effectivement, véritablement, un laboratoire d'études pour les migrations russes et donc en particulier en ce qui nous concerne, pour la manière dont peut se traduire à travers les imprimés la mémoire des révolutions. Donc nos fonds slaves, tels qu'ils sont aujourd'hui, un gisement documentaire de plus de 100 000 documents, réunissent donc plusieurs collections. Les collections historiques de l'ENS de Lyon, des dons d'enseignants et de chercheurs, et une bibliothèque jésuite, l'ancienne bibliothèque slave de Meudon, que nous appelons donc aujourd'hui le fonds slave des Jésuites. Ce fonds slave des Jésuites en est le socle majeur, puisque ces 100 000 documents, il représente à lui tout seul plus de 80 000 ouvrages de cette documentation. Il est l'union de deux fonds, le fonds Gagarine, pardon, et le fonds Saint-Georges. Donc le premier va se développer à Paris à partir de la moitié du XIXe siècle et devenir particulièrement prospère dans les années 1920 et 1930, quand la capitale française devient aussi celle de l'immigration russe. Dans les années 1980, il unit son sort à celui du fonds Saint-Georges, l'autre partie donc du fonds jésuite, dont l'existence est directement liée aux conséquences des révolutions russes. Il est en effet la bibliothèque d'une communauté d'émigrés russes qui se constitue dès son séjour à Constantinople tout de suite après les révolutions, grâce à l'aide dispensée par des membres de la Compagnie de Jésus. Nous allons donc tout d'abord nous intéresser au fonds Gagarine. Donc le fonds Gagarine est fondé par un noble russe donc qui s'appelait Ivan Sergeïevitch Gagarine, qui vient au monde à Moscou en 1814 dans une illustre famille emblématique de l'élite aristocratique russe éclairée, occidentalisée, francisée. Le jeune Ivan est éduqué à la maison, sous la houlette d'un précepteur français. À 10 ans, il écrit mieux le français que le russe et parle parfaitement le latin. Il est aussi initié à l'allemand. C'est un enfant très studieux, féru de lecture, qui puise abondamment dans la bibliothèque familiale. Et c'est une éducation qui va faire de lui donc un jeune homme extrêmement cultivé, particulièrement intéressé par l'histoire, celle de son pays et celle de l'Europe. Dès les années 1830, le jeune prince embrasse la carrière diplomatique. En Russie, comme dans les capitales européennes, il fréquente tous ceux qui font l'opinion et alimentent la vie intellectuelle et culturelle. Mais parallèlement au tourbillon de cette vie brillante et mondaine, Gagarine est en quête d'un idéal qui embarque le cours de sa vie. Homme de sa caste et de son temps, il rejette le pouvoir impérial, tout puissant, et souhaite l'abolition du servage, mais il condamne vigoureusement les révolutions et leurs excès. Sous l'influence d'un penseur tel que Piotr Tchadaïev, et aussi des intellectuels catholiques, rencontrés dans le salon de sa tante Madame Swetchine, convertie au catholicisme, Gagarine entame lui aussi son chemin vers la conversion. En 1842, il franchit le pas, se convertit au catholicisme et entre dans l'ordre des Jésuites l'année suivante, convaincu qu'il lui faut avoir une démarche concrète pour accompagner son cheminement spirituel et faire en sorte de rallier ses frères slaves au rapprochement avec l'Église de Rome. Gagarine est donc déchu de ses droits, privé de ses biens et contraint à l'exil. En 1855, Gagarine, donc devenu le père Jean Gagarine, obtient enfin de la Compagnie de Jésus l'autorisation de fonder une mission qui porte le nom des Saints Cyrille et Méthode. Voici un extrait de la charte fondatrice de cette mission. Ce projet renferme deux choses qu'on emploiera selon que la divine providence nous le permettra. D'abord, on fondera une espèce de bibliothèque qui pourra porter le nom des Saints Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves. En même temps, on essaiera de fonder des missions pour la conversion des Slaves. En attendant qu'on sonde le terrain pour pouvoir commencer les missions et s'il se peut fonder un noviciat, on commencera par publier quelques ouvrages qui, avec la bénédiction de Dieu, prépareront les cœurs et dissiperont les préjugés. L'œuvre des Saints Cyrille et Méthode est donc ainsi fondée et avec elle commence l'existence de la bibliothèque slave. Deux autres pères russes ont accompagné le père Gagarine dans cette entreprise, Eugène Balabine et Jean Martinov. Jusqu'à la disparition du père Gagarine et de ses compagnons, la bibliothèque slave est indissociable de l'œuvre des Saints Cyrille et Méthode. Il s'agit donc de rassembler une documentation qui puisse servir les desseins des pères russes et tenter de rallier les schismatiques. Une bibliothèque que l'on appelle alors le musée slave ou encore le musée slavicum se constitue peu à peu, selon les orientations prises par les travaux entrepris par l'un ou l'autre des trois pères russes. Mais les objectifs des pères fondateurs se transforment peu à peu, deviennent plutôt un moyen de jeter des ponts entre les deux communautés, catholiques et orthodoxes, entre la Russie et l'Europe, et de plus en plus, de contribuer à offrir un instrument de connaissance et de recherche à ceux qui étudient la Russie, sa langue et sa civilisation. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la bibliothèque déborde alors du cadre de la mission spirituelle de ses origines. Les pères fondateurs ont légué à leurs successeurs les bases d'un fonds qui commence à être un instrument pour la slavistique française. Les grands slavistes français du moment, Louis Léger, Alfred Rambaud, ensuite Anatole Leroy-Beaulieu, sont bien présents dans la bibliothèque slave. On trouve même donc des ouvrages où on voit leurs dédicaces. L'explosion de l'âge d'argent à la fin du XIXe siècle place la Russie à l'avant-garde de la création artistique et littéraire. Tout ce foisonnement intellectuel, artistique, littéraire et les publications qui le traduisent, russes, européennes, intègrent la bibliothèque slave. Mais au début du siècle, les lois contre les congrégations religieuses, qui ont déjà pu inquiéter la bibliothèque, reviennent sur le devant de la scène. Après bien des hésitations, le père jésuite et historien Paul Pirling, qui dirige alors la bibliothèque slave, se résout à quitter la France en portant ses livres avec lui. Il se tourne vers la société savante des Bollandistes établie à Bruxelles. Les jésuites belges et les pères russes se connaissent bien et collaborent ensemble autour de projets scientifiques communs. Ils concluent un accord qui stipule que la bibliothèque sera transférée à Bruxelles, où tout en restant la propriété de la province de France, elle sera mise à la disposition des Bollandistes. Pendant deux décennies, la bibliothèque slave a prospéré à Bruxelles. Et elle aurait pu sans doute y prospérer encore très très longtemps si le cours des choses ne s'était pas trouvé complètement bouleversé par les révolutions russes. En France, après la Première Guerre mondiale, la situation des jésuites a plutôt favorablement évolué. D'autre part, la situation religieuse de la nouvelle Russie bolchévique requiert toute l'attention des autorités du Vatican et de la Compagnie de Jésus. En conséquence, la province de France réclame le retour de la bibliothèque slave à Paris. Mais les bollandistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils s'y opposent avec videur. Ils n'ont pas du tout envie de rendre les livres qui leur ont été confiés, dont ils se sont d'ailleurs fort bien occupés. Ils revendiquent le travail accompli, l'exploitation scientifique, l'enrichissement des collections, et la discussion va s'engager âprement. C'est un nouvel historien, le père jésuite Marie-Joseph Rouet-Journel, qui va succéder à Paul Pirling, et il va prendre les choses en main, et il va discuter vraiment de manière radicale avec les bollandistes et obtenir le retour de la bibliothèque slave à Paris. La bibliothèque slave demeure donc en France, où elle va connaître pendant de longues années la période la plus faste de son histoire. Comme nous l'avons déjà évoqué, dans les années 1920, donc la Russie, devenue l'URSS, connaît une vague d'émigration sans précédent. Après Prague et Berlin, Paris devient à son tour la capitale de l'émigration russe. Le 33 de la rue de Sèvres abrite alors l'Union française de l'aide aux Russes, l'UFAR. Cette association d'aide aux émigrés russes est dirigée par Mgr Chaptal. Grâce à lui, la bibliothèque slave s'installe dans ces lieux. Le matin, les locaux accueillent l'UFAR, tandis que l'après-midi, ils se transforment en salle de lecture pour les émigrés. La bibliothèque s'ouvre alors au public, elle obtient des subventions du ministère de l'Éducation nationale et de la ville de Paris, elle est fréquentée assidûment par la communauté russe. La vitalité de cette communauté enrichit et irrigue durablement la vie culturelle française, une vie éditoriale intense, comme on l'a souvent évoqué encore aujourd'hui déjà, s'évanouit donc à Paris, revues, journaux, témoignages, romans, études historiques qui sont publiées en abondance. Grâce à des acquisitions et à de nombreux dons prodigués souvent par les émigrés eux-mêmes, cette masse énorme de publications se reflète aujourd'hui encore dans la bibliothèque slave et dans le fonds jésuite qui est donc conservé dans nos murs aujourd'hui. Une grande figure de l'émigration, la princesse Anna Alexandrovna Kourakina, va collaborer directement avec la bibliothèque. Elle va leur apporter son érudition, ses compétences professionnelles qu'elle a déjà mises en pratique à la bibliothèque Tourguenieff, ensuite au service russe de la Bibliothèque nationale et donc enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés donc, du père Rouet de Journel. Dans les années 70, c'est René Maréchal, donc jésuite, slaviste et traducteur, dernier directeur de la bibliothèque avant son arrivée donc à l'ENS de Lyon, qui prend les rênes de la bibliothèque. Dans ces années, la bibliothèque slave va traverser à nouveau des périodes un peu compliquées. Elle n'est visiblement plus une priorité pour la Compagnie de Jésus, qui lui impose plusieurs déménagements. Et il lui faut donc à nouveau, fin des années 70, trouver un point d'ancrage. Et elle va donc rejoindre... Elle va donc s'installer à Meudon, dans le centre d'études russes Saint-Georges, dont le père Maréchal est également directeur, où il y a déjà donc une autre bibliothèque, elle née directement de l'émigration russe, et auquel on donne aussi le nom de Fonds Saint-Georges. Pour raconter l'histoire du Fonds Saint-Georges, il nous faut remonter le temps et revenir au début des années 1920. Nous sommes à Constantinople, alors un centre important de l'émigration russe, où des familles entières attendent dans des conditions souvent très difficiles de pouvoir poursuivre leur route vers l'ouest ou rentrer en Russie. Deux pères jésuites se trouvent également dans la capitale turque. Il s'agit du père Louis Bay et le père Stanislas Tichkevitch sont en transit avant de rejoindre la Géorgie où ils sont envoyés en mission. Touché par la détresse de la communauté russe, le père Bay fonde un comité pour l'éducation des enfants russes. Ce comité lance un appel à la création d'un pensionnat pour les garçons de 7 à 16 ans. Ce pensionnat voit le jour en 1921 et s'installe dans les locaux d'un collège de lazaristes autrichiens et hongrois. Il prend le nom de Saint-Georges. L'abbé Sipiagin, un émigré russe, apporte à la nouvelle communauté la connaissance de sa langue maternelle. L'organisation et la tenue de l'ensemble sont confiées à d'anciens officiers de l'armée du général Wrangel. Le cycle scolaire normal est assuré par le collège des lazaristes. Mais en 1922, en Turquie, dans la Turquie de Mustafa Kemal, la situation politique devient problématique pour les émigrés russes. La communauté russe doit partir et le père Bay se tourne vers la Belgique où les religieux du diocèse de Namur ont déjà mis en place des structures d'aide aux étudiants russes. C'est ainsi qu'en mars 1923, l'abbé Sipiagin quitte la Turquie avec un groupe de 38 enfants et 12 adultes pour Namur. La communauté s'y installe donc et constitue déjà sa bibliothèque, si l'on en juge par les tampons Saint-Georges-Namur que l'on trouve apposés sur certains de nos ouvrages. Avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté de Namur vit des jours difficiles. Beaucoup de jeunes gens sont totalement coupés de leur famille qui réside en France. Et en 1940, la communauté de Saint-Georges décide donc de quitter la Belgique pour Paris. Ils sont hébergés dans un immeuble de la Compagnie de Jésus, puis en plein Paris, puis en 1946, les pères et leur pensionnat peuvent envisager de s'installer dans des lieux plus conformes à leurs vœux et à leurs ambitions. Ils trouvent donc résidence à Meudon, dans une vaste demeure de 2 hectares, appelée le fameux potager du dauphin. À Meudon, l'objectif des pères est conforme aux vœux des familles russes, former une nouvelle génération qui rentrera au pays pour œuvrer à sa renaissance. Peu à peu, afin d'éviter les déplacements des enfants à Paris pour l'enseignement, leur scolarisation a lieu aussi à l'internat même. Pendant un temps, toutes les classes existent à Saint-Georges. Puis elles sont progressivement abandonnées. Les pensionnaires sont scolarisés à Meudon, à Sèvres ou à Versailles. Il faut songer que la plupart des jeunes gens sont désormais appelés à construire leur vie dans leur pays d'accueil. Il faut leur donner donc tous les moyens de s'y intégrer. Au début des années 1960, le recrutement se fait plus rare. la colonie russe s'assimile d'année en année davantage, les activités donc de Saint-Georges vont se diversifier. On va plutôt organiser des stages de langue, des stages sur la civilisation russe, où on pourra conforter l'enseignement que les étudiants trouvent en place à l'université. Donc, Saint-Georges se transforme en centre d'études russes. L'enseignement scolaire est donc définitivement abandonné. Et on accueille des étudiants, beaucoup d'étrangers, qui viennent donc parfaire leur connaissance de la langue et du monde russe à Saint-Georges. En conséquence, la bibliothèque se développe encore davantage. On accorde beaucoup d'importance à la littérature, à la linguistique, à l'histoire. Un fonds très important de soviétologie se développe. Il y a beaucoup d'échanges avec les institutions russes, les universités, les bibliothèques, et qui contribuent à enrichir considérablement les collections. Si les livres en langue russe sont privilégiés, on veille aussi à se procurer des ouvrages traitant des questions russes en français ou dans d'autres langues européennes. La bibliothèque se transforme à nouveau donc à l'arrivée de la bibliothèque slave, le fonds Gagarine, donc initié au XIXe siècle. Elle réunit les deux collections et rassemble ainsi une collection assez importante, voire exemplaire, sur les périodiques de l'émigration russe, les collections de l'émigration russe en particulier. Et elle va prendre à ce moment-là le nom de bibliothèque slave de Meudon. Puis, comme vous le savez, dans les années 90, la donne internationale change à nouveau. La vocation du centre de Meudon est peu à peu remise en question. Et en 1992, le centre d'études cesse ses activités. Puis, à la fin du XXe siècle, par manque de moyens humains, matériels, financiers, la Compagnie de Jésus décide de confier la bibliothèque slave de Meudon à d'autres mains que les siennes. Cette bibliothèque doit donc poursuivre son chemin et se mettre en quête donc d'une institution susceptible de l'accueillir. Ce sera donc l'ENS de Lyon et sa bibliothèque qui vont accueillir cette extraordinaire bibliothèque à laquelle on donne désormais donc le nom de fonds slave des Jésuites. Donc désormais conservée à ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliothèque d'Hydro de Lyon, née d'une mission spirituelle, gardien et passeur de la mémoire des émigrés russes, le fonds slave des Jésuites est devenu un instrument documentaire au service de l'étude et de la recherche. Il fédère deux mondes que les soubresauts de l'histoire ont désunis et œuvre au rayonnement de la civilisation russe. À Lyon, la tradition des dons s'est poursuivie et la marque de l'émigration est toujours présente. Plusieurs dons d'émigrés ou de descendants d'émigrés russes sont venus compléter les acquisitions. Il faut citer les livres de Guylaine Ivanov-Liman, qui a donc été un enseignant de russe, qui a donc donné ses ouvrages à la bibliothèque. Il y a quelque temps, par le biais d'un donateur extérieur, nous avons récupéré, heureux hasard, des livres qui avaient appartenu au joueur d'échecs Boris Spassky, qui a séjourné en France pendant plusieurs années. Et il y a 3 ans, une descendante d'émigrés russes, Madame Tatiana Chagall, a offert à la bibliothèque des documents légués par ses parents, qui ont une histoire tout à fait particulière. Donc, ses parents, Pavlik et Natalia Chagall, se sont rencontrés l'un et l'autre lors de la constitution des fameux bataillons féminins de Petrograd, fondés en mai 1917. Pavlik Chagall est recrutée pour encadrer ses combattantes. Et Natalia s'engage dans ce bataillon féminin. C'est comme ça que Pavlik et Natalia vont faire connaissance. Ensuite, ils choisiront d'émigrer. Et le don donc, que Tatiana Chagall nous a légué, qu'elle a remis entre nos mains, est constitué du tapuscrit donc, de leur autobiographie, qui aujourd'hui est publiée. Nous avons l'ouvrage disponible dans nos connexions. Et avec ce don, vous pourrez en voir quelques éléments dans nos vitrines. Il y a aussi des photos personnelles ou cartes postales qui nous restituent les images de ces fameux bataillons féminins de Petrograd et aussi un album très émouvant de photographies sépia qui nous font remonter dans la vie d'avant de la famille Chagall. Je voudrais évoquer aussi un autre donateur très très important dont vous pourrez aussi voir quelques éléments personnels dans nos vitrines. Il s'agit du grand-duc Nikolai Mikhailovitch, qui était donc le petit-fils de Nicolas Ier et l'oncle de Nicolas II. Officier, militaire, il a mis ses grandes qualités intellectuelles, surtout au service de l'histoire et de la culture russe. Et son travail d'historien a permis la publication de sources majeures pour l'étude de l'Empire russe au XIXe siècle. Le grand-duc, qui connaissait donc la direction de la bibliothèque slave de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, a offert à la bibliothèque slave ses ouvrages, dont les fameux volumes des portraits russes, bien connus. Et grâce à lui, le tsar Nicolas II a offert à la bibliothèque la totalité du code des lois russes tel qu'il existait au début du XXe siècle. Et sur chaque volume est apposé l'ex dono de Nicolas II. Dans le premier tome, on peut voir encore le télégramme envoyé par le grand-duc à Paul Pirling pour lui annoncer le don accordé par le tsar. Et puis, ce que vous allez voir dans les vitrines, le grand-duc Mihailovitch a entretenu pendant de nombreuses années une correspondance avec l'historien académicien français Frédéric Masson. 500 lettres dont nous avons la conservation aujourd'hui à la bibliothèque. La dernière, datée du 24 décembre 1918, a été écrite quelques jours avant sa mort. Comme vous le savez certainement, le grand-duc est exécuté dans les premières semaines de l'année 1919. En 2007, la bibliothèque Diderot de Lyon acquiert le fonds de chaires de russe de la faculté des lettres de l'Institut catholique de Lille, dirigé pendant de nombreuses années par Georges Maklakov. Georges Maklakov, fils de Nicolas Maklakov, qui fut ministre de l'Intérieur du tsar Nicolas II, et neveu de Basile Maklakov, chef de l'opposition libérale de la Nouma, figure extrêmement importante de l'émigration russe. Après 1917, Maklakov choisit l'exil, d'abord vers l'Allemagne, puis vers la France. Les collections du Fonds russe de l'Institut catholique de Lille offrent de nombreux exemples d'ouvrages édités entre les deux guerres dans les trois principaux centres européens de la Russie hors frontières, Prague, Berlin et Paris, puis celui des États-Unis après 1945. C'est donc sur ces collections que s'appuie la documentation présentée dans l'exposition. Le fil conducteur que nous avons choisi pour notre parcours met en lumière ce lien constructif des communautés d'émigrés russes avec la France et donc avec le contenu de notre documentation, où s'affiche largement donc la vie éditoriale de la Russie hors frontières. Le début du parcours revient donc sur la manière dont s'est construit cet ensemble, évoque l'histoire du fonds jésuite. Au centre, vous pourrez voir que se déploient donc les révolutions russes de 1905 à 1921, où on s'est efforcé, à travers quatre panneaux et deux petites vitrines, donc d'illustrer le climat de guerre et de violence subi par la Russie de façon quasi incessante durant toutes ces années. Puis, c'est la mise en valeur des écrits de l'émigration russe qui témoignent des révolutions. Les œuvres poétiques, romanesques, récits, mémoires, etc. Le parcours évoque aussi des visions et des incarnations particulières de celles d'un créateur hors du commun, comme Alexandre Solzhenitsyn, ou aux destinées d'acteurs réels ou de fiction embarqués volontairement et malgré eux dans les révolutions russes. Et enfin, vous verrez à la fin de l'exposition un diaporama sur 1917 qui a été réalisé par Katia Labodienko, qui sera avec nous demain. Voilà, nos collections donc sont la restitution d'un patrimoine. Ce patrimoine est toujours en construction. Nous sommes efforcés aussi de montrer comment des publications récentes, des traductions en particulier d'œuvres comme Aldanov, suicide, cité tout à l'heure Marc Aldanov, cité par Gervais Tassis, sont présentes aussi dans notre exposition. Et puis, je voudrais terminer cet exposé par ce qui est, à mon sens, au cœur de notre mission à nous, bibliothécaires. Nous sommes donc là pour signaler ce que nous voulons porter à la connaissance de nos lecteurs. Ainsi, nous redonnons vie à tous ces ouvrages qui sont bien rangés, bien sagement dans nos magasins. Et sur certains d'entre eux, nous pouvons découvrir, au détour d'une page, un ex libris, des armoiries, un simple tampon, une signature, une dédicace. Sur le contreplat d'une reliure, presque furtivement au coin d'une page, s'offre donc à nos regards attentifs l'indice, tantôt discret, tantôt ostentatoire, mais qui s'affiche comme une évidence quasi palpable de la présence de ceux qui ne sont plus. Dans le silence de leur cheminement intime ou sous les feux de l'actualité scientifique ou éditoriale, ces derniers ont tenu ces livres entre leurs mains. Nous leur redonnons vie lorsque nous montrons leurs ouvrages. Dans le projet qui nous réunit aujourd'hui, à travers toutes les richesses que nous avons essayé de faire partager dans l'exposition, c'est cette mission de transmission que nous tentons d'accomplir, à l'instar de cette communauté de l'exil à laquelle nous rendons hommage aujourd'hui et qui, malgré l'adversité ou pour conjurer cette adversité, a su préserver son héritage.